Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Repensons la paix et la sécurité, le podcast de Stop Feeling War qui questionne la sécurité, les ventes d'armes et la paix. Nous sommes Holly et Alice de l'association Stop Feeling War et aujourd'hui nous recevons Laetitia Sédou de l'INAT pour discuter de l'Union européenne et de processus de militarisation. La présidence française de l'Union européenne a débuté le 1er janvier 2022 pour 6 mois. Au cœur de ses priorités, on retrouve la défense et l'armement, un sujet d'autant plus d'actualité depuis l'invasion russe en Ukraine. Mais alors, quels sont les projets européens de défense? Quel est leur poids économique? Existe-t-il un processus de militarisation européenne? Et quelles en sont les conséquences pour les citoyens et les citoyennes? À quelques jours de l'adoption de la boussole stratégique, nous avons décidé de lancer une série d'épisodes de Repensons la paix et la sécurité pour mieux comprendre les enjeux autour des questions militaires et de sécurité à l'échelle européenne et mieux comprendre ce que cela implique pour la population. Bonjour et bienvenue sur le podcast Repensons la paix et la sécurité. Aujourd'hui, on est avec Laetitia Sédou et on va vous faire un podcast sur l'Union européenne, la sécurité, la défense et le processus de militarisation de l'Union européenne. Parce qu'en fait, la France est à la présidence de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2022, et ce jusqu'au 30 juin 2022. Donc pour nous, c'est intéressant de lancer cette série de podcasts sur l'Union européenne. Et aujourd'hui, on va commencer avec une introduction à ce qu'on appelle la militarisation de l'Union européenne. Donc il faut savoir que les dépenses militaires de l'Union européenne équivaut à peu près 198 milliards d'euros en 2020. Ça, ça comprend les 26 pays membres actuels. Mais ce sont des dépenses qui sont agrégées. Donc on parle pas encore des dépenses collectives dont on va parler dans cet épisode, qui comprennent les programmes communs de l'Union européenne qui sont mis en place depuis quelques années.
Donc bonjour Laetitia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît rapidement?
Bonjour. Oui, donc moi je suis Laetitia Sédou et je travaille donc pour le réseau européen contre le commerce des armes, donc ENAT en acronyme anglais. Et donc nous avons un projet spécifique sur l'Union européenne et effectivement sur pour essayer de combattre et de contester cette militarisation de l'Union européenne dont Alice a parlé.
Donc pour commencer, on va s'intéresser à la définition de ce dont on va parler. Donc est-ce qu'on peut définir ensemble ce que c'est que la militarisation? De quoi on parle quand on parle de sécurisation de l'Union européenne ou de sécuritisation de l'Union européenne?
Oui, effectivement, c'est important de commencer par clarifier un peu les concepts. Et nous, on a utilisé comme point de départ d'abord des définitions un peu des grands dictionnaires de référence, comme le Larousse, et puis aussi une définition d'un sociologue, Andrew Bickford, qui explique qu'au sens donc large, la militarisation, c'est la préparation culturelle, symbolique et matériel à la guerre. Et il insiste aussi sur un aspect important, c'est qu'on parle de militarisation quand on est dans un processus intentionnel, c'est-à-dire quelque chose qu'un État ou un groupe décide de faire. Et donc, si on résume ça, les quatre on va dire critères ou éléments d'un processus de militarisation, c'est pour nous un processus où il y a des ressources, qu'elles soient financières, humaines, politiques, qui sont réaffectés au développement de capacités militaires. C'est un processus où il y a des structures qui sont en place ou créées pour organiser, coordonner et développer ce processus et la collaboration entre politique, militaire et industrie. C'est un processus où la réponse aux défis auxquels on fait face, c'est plutôt la réponse et les moyens militaires qui sont privilégiés au détriment des moyens civils. Et enfin, le dernier élément important, c'est le fait que c'est un processus qui s'appuie sur une certaine rhétorique, sur une rhétorique qu'on peut appeler guerrière, qui prépare en fait à la guerre. Alors, par rapport à la sécuritisation, j'ai envie de dire que la militarisation, elle fait partie, elle s'inscrit dans ce cadre de ce qu'on appelle sécurisation ou sécuritisation, qui est un processus un peu plus large, mais qui reste donc un processus qui est subjectif, par lequel donc un problème qui est politique va être plutôt identifié et traité comme une question de sécurité. Donc, évidemment, un exemple très concret, c'est la manière dont les questions de migration et d'asile sont traitées, ou comment le traitement, en tout cas, a évolué pour être présenté aujourd'hui plus comme une menace, aussi bien donc, par des gouvernements, mais finalement aussi par les institutions européennes elles-mêmes. Alors, sur la théorie, évidemment, souvent, ce qu'on nous répond, c'est que l'un n'empêche pas l'autre et que donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a une sécurisation que des moyens non sécuritaires sont exclus ou ne peuvent pas être utilisés. Mais on voit bien que dans la pratique, ça limite, en fait, l'attention, les processus de réflexion et les types de réponses sont très formatés par le choix que l'on fait d'une approche non violente ou sécuritaire. Souvent, l'exemple qu'on prend, c'est que voilà, pour toute personne qui a un marteau, bah, pour une personne qui a un marteau, tous les problèmes, finalement, ressemblent à un clou, et on va l'utiliser pour un peu résoudre tout ce qu'on a. Voilà, donc la militarisation, quelque part, c'est à la fois une sous-partie de la sécuritisation, et en même temps un processus qui va un peu plus loin, puisque là, on est carrément dans l'utilisation des moyens militaires et pas seulement de moyens policiers, par exemple, ou de surveillance.
Merci, Laetitia. Oui, c'est très important de commencer par cette définition très claire de la militarisation. Et du coup, on va regarder là maintenant comment est-ce que cette définition s'applique à l'Union européenne. Donc, on a parlé de la militarisation de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on parle de ça? Qu'est-ce qui a changé sur les dernières années?
Alors, c'est effectivement quelque chose qui est relativement récent, on va dire, puisqu'il faut quand même rappeler évidemment que l'Union européenne a été, la construction européenne, qui ne s'appelait pas encore Union européenne, elle a été d'abord faite comme un projet de paix pour éviter donc la guerre entre les pays européens au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est souvent peu connu, c'est que une des raisons pour lesquelles la construction européenne s'est faite sur le charbon et l'acier, c'est justement parce que c'était les ressources principales utiles pour les courses aux armements. Et donc l'idée était que si on met ensemble et qu'on coopère et qu'on devient interdépendant sur ces ressources essentielles à l'armement à l'époque, ben, ça va éviter justement qu'on rentre en compétition et qu'un pays rentre dans une course à l'armement et entre dans une logique guerrière. Donc ça c'est quand même important à rappeler par rapport aux évolutions très récentes qu'on va décrire après. Et puis l'autre élément important, c'est qu'il y a quand même un article, l'article 41 du traité de l'Union européenne, qui dit que le budget communautaire, donc vraiment ce pot commun de l'Union européenne, ne peut pas financer des activités à caractère militaire. Donc, il y avait une sorte de ligne rouge, de tabou, on va dire, qui fait que le budget communautaire ne pouvait pas financer ce qui était du militaire. Et donc, évidemment, voilà, beaucoup de gens savent qu'il y a déjà des activités militaires au nom de l'Union européenne, donc il y a des missions, dont certaines ont un caractère militaire, qui sont menées au nom de l'Union européenne. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ces activités à caractère militaire, jusqu'à donc 2017, elles étaient financées par les États membres eux-mêmes qui décidaient d'y participer. Donc, c'est ce qu'on appelait les processus intergouvernementaux. Donc, ce n'était pas du tout géré par la Commission européenne et il n'y avait pas de contribution du pot commun du budget communautaire. Donc, c'est typiquement ces missions militaires, ce qu'on appelle aussi la coopération structurée permanente, qui est une coopération pour développer des capacités militaires entre États membres. Ça veut dire aussi, évidemment, que les pays qui ne veulent pas y participer pouvaient en être exclus. Donc, le Danemark l'a fait, Malte l'a fait aussi pour les capacités. Et donc, ils avaient cette possibilité de opt-out, comme on dit, et donc de ne pas financer, du coup, non seulement de ne pas participer, mais en plus de ne pas financer, du coup, cet aspect de la construction européenne à laquelle ils ne voulaient pas participer. Et donc, c'est là qu'il y a un basculement très important qui s'est fait en 2016, avec un véritable changement de paradigme, mais avec, quelque part, ce tabou, cette ligne rouge a été franchie.
Merci beaucoup. Et du coup, comme tu parlais avant des ressources qui sont mobilisées pour cette militarisation et ces processus, comment est-ce que ça se traduit dans l'Union européenne? On a parlé avant des budgets de la défense qui étaient extrêmement hauts en 2020, qui était une année de pandémie. Donc, c'est intéressant de connaître un peu les choses qui sont mises en place et les priorités qui sont données à certains programmes plutôt que d'autres.
Oui, tout à fait. Donc, du coup, ce qui s'est passé dans cette année charnière 2016-2017, c'est qu'en fait, a été adopté en 2016 le premier financement concret avec ce pot commun, avec le budget communautaire, d'activités de recherche dans le domaine militaire. C'est ce qu'on appelle action préparatoire. Et donc, c'était donc 90 millions d'euros. En soi, ça ne paraissait pas énorme comme montant, qui ont été dédiés à financer l'industrie militaire, les centres de recherche privés, à faire des projets de recherche dans le domaine militaire. Donc, ça a commencé en 2017. Ça, c'est vraiment un peu ce moment de basculement, on va dire. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à se développer. Donc, sur la période 2017-2019, on a finalement un peu plus d'un demi-milliard, donc 590 millions d'euros de 2017 à 2020, pardon, qui ont été dédiés à des projets de recherche et de développement pour ces nouveaux systèmes, pour des nouveaux systèmes d'armement. Donc, c'est vraiment les premières étapes avant la production. On est dans les étapes de recherche, de différents niveaux de développement, de prototypes éventuellement et d'études, mais on n'est pas dans la phase de production. C'est tout ce qui se passe avant, on va dire. Donc, ça, c'était un peu le premier moment pilote, on va dire, ce qu'on appelait les programmes pilotes en matière de recherche et développement militaire. Et surtout, le morceau le plus gros qui a commencé à partir de 2021, donc de l'année dernière, c'est que ces programmes pilotes se sont transformés en ce qu'on appelle un Fonds européen de la défense, qui, lui, va dédier donc sur 7 ans, de 2021 à 2027, 8 milliards d'euros pour la recherche et le développement en matière militaire. Donc, c'est un budget qui est quand même conséquent. Alors, au niveau du budget complet de l'Union européenne, ça semble faible, mais c'est quand même assez inédit, je pense, dans l'histoire de l'Europe, qu'on passe de zéro, puisque avant 2017, on avait 0 euro qui allait directement du pot commun européen à des activités liées aux militaires. Et on passe donc en quelques années, en 2021, à une enveloppe de 8 milliards d'euros, ce qui est quand même un bond assez énorme. Et ce qui se passe aussi, qui a suivi le développement de ces premiers programmes, c'est qu'on a eu aussi un autre tabou qui est tombé, c'est que du coup, il y a une forme de normalisation de l'industrie, de l'armement et des activités militaires qui fait que d'autres lignes budgétaires, qui elles sont normalement civiles, se sont ouvertes aussi aux industries de l'armement. Et ça va vraiment un peu dans tous les domaines. Donc, domaine de l'éducation avec Erasmus+, pour essayer d'inciter des jeunes diplômés, notamment de hautement qualifiés, à se tourner vers l'industrie militaire. Le fonds social, les fonds régionaux pour créer comme ça des sortes de clusters régionaux industriels sur l'armement. Le transport, avec 1,5 milliard dans la mobilité pour faciliter les déplacements de troupes ou bien d'équipements militaires. L'environnement, pour produire des armes plus vertes. Donc, voilà. Même l'aide extérieure, avec un petit programme qui servait à soutenir la formation et aussi l'équipement. Donc, en gros, la vente finalement d'équipements militaires européens à des forces militaires ou de sécurité dans des pays tiers. Donc, c'est vraiment devenu en quelques années quelque chose d'assez généralisé, d'une forme de participation de toutes les politiques possibles à ce que nous, on pourrait appeler l'effort de guerre, d'une certaine façon.
Merci, Laetitia. Ouais, c'est super intéressant d'entendre comment ça s'est transformé au sein de l'Union européenne, ce projet de paix qui est devenu un projet de militarisation et de soutien à l'industrie de l'armement. Et du coup, j'aimerais bien savoir, si possible, comment les programmes de ce Fonds européen de défense et autres financements pour l'industrie militaire ont été élaborés et adoptés, comment sont-ils mis en œuvre aussi?
Oui, effectivement. Alors ça, c'est aussi donc la différence par rapport à ce qu'on expliquait, à ce que j'ai évoqué au début, où auparavant les activités militaires étaient intergouvernementales, donc c'était essentiellement les États membres qui faisaient un peu leur petite tambouille entre eux, si on peut dire. Là, évidemment, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus communautaire, où c'est une initiative qui est venue à la fois du Parlement européen et de la Commission européenne à la base. Donc, il y avait quand même une certaine impulsion d'un certain nombre de députés européens qui ont poussé à la création de l'action préparatoire, donc vraiment le tout premier programme pilote. Et puis ensuite, la Commission a embrayé là-dessus très rapidement pour proposer de financer aussi des activités de la phase de développement d'armes. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'en pratique, évidemment, derrière, il y a eu un lobby très important de l'industrie de l'armement qui, depuis longtemps, a des liens assez forts avec la Commission, puisque souvent, ce sont des acteurs actifs à la fois dans la sécurité et dans le domaine militaire. Et donc, ils avaient déjà, via les activités liées à la sécurité, mais civile, des liens avec la Commission. Et donc, il y a eu un lobby important de cette industrie auprès du Parlement européen, et de la Commission européenne pour développer ce genre de programme. La décision, elle, bah, comme toutes les décisions au niveau européen pour ce qui est communautaire, elle a été prise à la fois par le Parlement européen et par les États membres ensemble. Donc, c'est une décision conjointe, avec là aussi une influence importante, évidemment, du lobby de l'armement, qui, au niveau national, donc comme un pays comme la France, typiquement, bah, évidemment, l'industrie de l'armement a une influence importante déjà au niveau national pour influer sur les décisions prises par leur gouvernement.
Excuse-moi, je n'ai pas voulu t'interrompre. Je voulais juste demander, et si c'est une question qui n'est pas pertinente, tu peux me le dire et on peut passer à autre chose, mais je voulais demander si, enfin, pourquoi l'industrie de l'armement a cet accès comparé aux ONG, par exemple. Pourquoi l'accès au Parlement, enfin, aux députés de l'Union européenne est tellement différent pour le lobby de l'industrie de l'armement et pour les ONG, par exemple?
Alors, il y a déjà une raison, je dirais, assez qui est plus large que la question militaire, c'est que de manière globale, l'industrie a un accès assez privilégié à la Commission européenne sur plein de domaines, donc pas seulement le militaire, mais dans beaucoup d'autres domaines, via des groupes d'experts, via des consultations. Donc ça, c'est déjà un fait en soi. Donc l'industrie de l'armement, elle s'inscrit dans ce cadre-là. L'autre aspect, évidemment, c'est que l'industrie, de manière globale, a beaucoup plus de moyens que le milieu associatif aussi pour faire entendre sa voix. Donc ils ont plus de personnel, plus de ressources. Ils utilisent différents biais, donc il y a à la fois les industries, notamment les grandes compagnies comme Airbus, Thales, Indra, Leonardo en Italie, qui ont leur propre bureau de lobby à Bruxelles, mais ils passent aussi par des associations professionnelles. Donc c'est par exemple pour la défense, c'est l'ASD, donc l'association pour l'aérospatiale et la défense. Et puis ils peuvent aussi passer par des cabinets d'avocats spécialisés, des lobbyistes professionnels, on va dire. Donc, ils ont souvent plusieurs canaux d'influence. Et effectivement, pour l'industrie de l'armement, je pense que le niveau national est très important parce que ça veut dire qu'ils ont une double connexion aussi au niveau national et peuvent utiliser les ministres de la Défense qui sont souvent quand même en partie les porte-voix de l'industrie, de leur industrie nationale militaire.
Merci, Laetitia. Donc, on n'est pas considéré comme des experts, vu qu'on n'est pas invité à ces groupes d'experts.
Oui, en effet, on ne l'est pas. C'est peut-être important de préciser, effectivement, que ce programme dont je parle, là, le Fonds européen de développement et tous ces programmes de recherche au niveau militaire, sont considérés comme des programmes industriels. Donc, ça ne tombe pas sous le volet de la politique de défense de l'Europe, mais de la politique industrielle. Et donc, effectivement, lorsque nous, on essaye de s'adresser à la Commission, on nous rétorque souvent qu'on n'a pas l'expertise technique pour pouvoir être des interlocuteurs valides. Et si on commence à leur parler des questions d'exportation, d'impact sur la paix ou sur les conflits, là, ils répondent que ce n'est pas leur sujet, qu'ils ne sont pas responsables de ça, que ce sont des choses qu'on doit discuter avec d'autres acteurs de l'Union européenne qui sont donc actifs sur ces questions-là, donc notamment l'action extérieure. Sauf que quand on va voir ces personnes liées à l'action extérieure, donc quelqu'un comme Borrell, donc qui est un peu l'ambassadeur, on va dire, le monsieur affaires étrangères de l'Union européenne, monsieur Borrell, ou son cabinet, ou son personnel, on nous répond que le Fonds européen de la défense, c'est un programme industriel, donc nous, ce n'est pas notre sujet. Et donc finalement, cette dimension essentielle de l'impact de ce genre de programme est évacuée finalement.
Parfait, j'en profite pour rappeler qu'on a fait un épisode sur les lobbies, donc si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas, on va le mettre en barre d'infos. Et alors du coup, on a parlé un peu de ces industries qui vont parler aux décideurs pour mettre en place tout ça. Et on peut se poser la question de qui au final bénéficie de tous ces programmes. Ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir des noms. Je pense qu'on sait qu'il y a beaucoup d'industries françaises qui bénéficient énormément par rapport à d'autres industries d'États membres de ces programmes. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles industries, bénéficient le plus des programmes industriels qui ont été mis en place?
Oui, tout à fait. Ça, c'est un élément, évidemment, qui est très important. Alors, nous, on a fait effectivement toute une série on a fait un peu une base de données, parce qu'il n'y a pas encore de base de données publique sur le sujet. On a récolté les informations disponibles données par la Commission européenne. sachant qu'il y a un gros retard, donc il y a un problème de transparence, et donc c'est souvent avec 2 ans de retard qu'on a vraiment le détail sur quelle entreprise reçoit quoi exactement. Voilà, donc nous avons, pour faire un peu notre analyse, nous nous sommes basés sur 64 projets financés de 2017 à 2020, pour lesquels il y a de l'information publique. Pour la moitié de ces projets, on sait exactement combien chaque bénéficiaire, donc chaque entité reprise dans le projet, reçoit. Pour l'autre moitié des projets, on connaît seulement le montant global du projet et quelles sont les entreprises impliquées, mais on n'a pas le détail du montant alloué pour chaque bénéficiaire. Alors, les bénéficiaires, hein, pour clarifier, c'est essentiellement des entreprises qui font aussi de la recherche et développement, des centres de recherche privés, et puis quelques centres de recherche publics ou institutions publiques, mais qui restent assez minoritaires. Alors, en termes d'entreprises, c'est clair qu'il y a effectivement un noyau dur qui reçoit une partie importante des financements. Donc, on a les 15 premiers bénéficiaires sur 428. Hein. Au total, il y a 428 entités dans ces différentes catégories qui reçoivent des financements via ces projets. Il y en a 15, les 15 premiers qui touchent 60% du budget. C'est quand même une concentration très importante. Et dans ces 15 premiers, on trouve en premier Leonardo, société italienne. On trouve Indra, qui est espagnole. Ensuite, on trouve Safran et Thales, en termes de société française. Airbus, donc, qui est un consortium français. Donc, ça, c'est vraiment les 5 premières. Et Thales, même s'ils sont, on va dire, que quatrième en termes de budget, de ce qu'on connaît, ils sont quand même deuxième en termes de participation. Donc, Thales et ses branches. Donc là, on ne parle pas que seulement de Thales France, mais toutes les branches en Europe. Hein, c'est la même chose pour les autres entreprises. On parle vraiment du groupe. Est à 39 participations dans différents projets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très clair en termes de concentration. Ce qui est important aussi de voir, c'est que, comme j'ai expliqué, l'industrie a quand même pas mal influencé le développement de ces programmes, et notamment, il y avait ce qu'on appelait un groupe de personnalités. Donc, c'était un groupe censé conseiller la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un programme de recherche en matière de défense, donc c'était en 2015-2016. Dans ce groupe de personnalités, 9 sur les 16 membres, donc une majorité des membres, représentaient l'industrie. Donc, soit directement des entreprises, un centre de recherche privé ou une association professionnelle. Donc, sur ces membres, 8 donc, sont des entreprises ou des centres de recherche qui peuvent bénéficier de financement. Ils ont reçu 30% du budget qui a été alloué sur la période 2017-2019, donc ceux pour lesquels on a de l'information. Et 6 sont dans ce top 15 des premiers bénéficiaires. Donc, on voit aussi une corrélation importante entre ceux qui ont conseillé la Commission de créer ce financement et ceux qui reçoivent une part vraiment significative de ce budget. En termes de pays, donc là, effectivement, sans surprise, le premier pays bénéficiaire, et de loin, c'est la France. Donc, la France, elle touche, de ce que l'on connaît comme montant, 26,4% du budget. Donc, c'est plus d'un quart du budget va uniquement à la France. La France, enfin, les entreprises, on va dire, françaises, participent 149 fois dans des projets. Donc, il y a 149 participations. Dans les projets. Donc, c'est vraiment énorme et de loin le premier. Ensuite, derrière, on a évidemment les 3 autres grands pays militaires de l'Europe. C'est l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, mais qui, eux, sont autour de budgets de autour de 14% chacun. Donc, on est quand même très loin des 26% de la France. Et ils sont un peu en dessous de 100 participations au total dans les différents projets. Donc là, il y a vraiment un décollage très important de la France. Et en fait, ces 4 pays au total, ils reçoivent 68,7%, donc presque 70% du budget qui a été alloué et connu va à ces 4 pays, en fait, qui sont aussi les pays avec les plus grosses entreprises, qu'on retrouve évidemment dans le top 15, et qui sont aussi, et c'est important à souligner, les plus gros exportateurs d'armes au sein de l'Union européenne. À l'autre bout de l'échelle, on va dire, on a à peu près la moitié des pays européens qui reçoivent moins de 1% de financement. Et donc, ça pose une question, évidemment, qui est dans quelle mesure ce programme est-il réellement européen ou pas. Donc, ça soulève toute une série de questions sur la façon dont le budget est utilisé, sa finalité, etc.
Merci Laetitia. C'est très intéressant d'entendre la part très importante que reçoit la France, en tout cas à travers ses industries et ses projets multiples. Et je pense que bah, comment ça a été un projet très poussé par la France au sein de l'Union européenne. Mais du coup, quelles sont les justifications économiques ou politiques ou les deux qui sont derrière ces mesures et penses-tu qu'elles sont justifiées ou pertinentes?
Oui, alors effectivement, il fallait pouvoir expliquer comment on pouvait du jour au lendemain mettre autant de milliards dans la recherche militaire. Et donc, il y a, je dirais, deux grands ordres d'arguments qui ont été donnés. C'était d'abord des arguments plutôt économiques. Donc effectivement, le secteur de la défense était présenté comme un secteur crucial en termes d'emploi et de croissance. Et que donc, un objectif était de maintenir l'emploi et de soutenir la croissance au sein de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose pour soutenir de telles argumentations. Pour la petite histoire, la Commission européenne elle-même, dans ses propres statistiques, donc via l'Eurostat, ne mentionne pas le secteur de la défense. Ça ne fait pas partie des 10 ou 15 premiers grands secteurs industriels ou économiques sur lesquels la Commission a des statistiques. Donc déjà, ça, c'est assez interpellant. Et en fait, la Commission, elle s'est référée en fait aux chiffres de l'industrie elle-même. Donc, elle a utilisé les arguments de l'industrie pour dire que c'était une industrie essentielle. Je connais pas beaucoup d'industries qui iraient dire qu'elle n'est pas importante. Donc, c'est pas forcément la source la plus claire. Surtout, ce qui est important de voir, c'est que nous, on a essayé de mettre en parallèle effectivement les chiffres d'Eurostat entre les emplois dans le domaine de la défense et les emplois industriels, et on se rend compte qu'au niveau européen, globalement, les emplois industriels, les emplois de la défense ne représentent que un peu plus de 1% des emplois dans le secteur manufacturier, secteur industriel. Donc au niveau européen, c'est pas du tout un secteur essentiel. Par contre, c'est vrai que ça l'est dans certains pays. Ça l'est pour la France et dans une certaine mesure pour les trois autres grands pays militaires. Donc la première question, c'est de se dire, peut-on construire un programme dit européen sur fonds communautaires alors que ça répond essentiellement aux besoins de quatre pays finalement. Donc ça c'est un premier élément. L'autre élément aussi c'est par rapport à la question de la croissance. En fait, une bonne partie de la recherche économique faite par les universités, les économistes montre plutôt que les dépenses militaires, donc y inclut les dépenses en matière de recherche et développement, ont un effet neutre, au mieux neutre, voire plutôt négatif en fait sur la croissance dans un pays. Donc il n'y a pas tellement de données qui montrent que ce serait un secteur qui porteur, on va dire, dans ce domaine-là. La plupart des études concluent qu'investir dans n'importe quel autre secteur, donc notamment, enfin, en tout cas, on peut penser à l'environnement, aux énergies renouvelables, à la santé, etc., va apporter plus d'emplois par même montant investi que si on investit dans le domaine militaire. Il y a pas mal de raisons à cela, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour résumer, il faut savoir que le secteur économique de la défense, c'est un secteur qui est assez dysfonctionnel, pour tout un tas de raisons, de son mode de fonctionnement, de ses clients qui sont essentiellement des gouvernements nationaux. Donc, ce n'est pas du tout un secteur économique traditionnel, et heureusement, quelque part, qu'on ne considère pas comme un secteur économique traditionnel, mais donc, évidemment, son impact dans l'économie n'est pas non plus du tout le même que celui d'autres secteurs, et pour nous, ne justifie pas qu'on investisse dedans de cette façon-là. Les arguments au niveau politique, parce que donc il y a aussi un peu cette dimension, relèvent donc là plutôt effectivement de la question des menaces, des risques, du besoin de l'Europe de pouvoir se défendre par elle-même. C'est notamment ce qu'on appelle le concept de l'autonomie stratégique, donc de dire que l'Europe, pour être autonome, a besoin d'avoir ses propres capacités militaires. Le problème, c'est que dit comme ça sonne bien, mais il faut bien voir quelle est la réalité concrète. D'abord, est-ce que l'autonomie stratégique, c'est le fait d'avoir des armes? Quand on voit l'actualité qu'on a pour le moment avec l'Ukraine et la Russie et qu'on voit de quelle façon la Russie a une forme de pouvoir sur l'Europe à cause de la fourniture de gaz, bah, on se demande si l'investir dans des énergies renouvelables et dans une réduction de la consommation d'énergie, etc., pour ne plus dépendre du gaz ou du pétrole ou d'autres ressources qui sont à la fois polluantes et finies et que l'on ne produit pas nous-mêmes, serait pas un gain beaucoup plus important en termes d'indépendance stratégique et d'autonomie stratégique que de développer des armes que l'on va avoir du mal à déployer contre des fournisseurs comme la Russie, puisqu'ils nous fournissent quand même 40% de notre gaz, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc voilà, là derrière, il y a aussi des questions par rapport aux relations avec l'OTAN, les pays européens, en fait, ne sont pas d'accord entre eux. C'est ça qui est très important à savoir, c'est que les pays européens ne sont pas d'accord entre eux sur ce que ça veut dire, s'il faut être autonome de l'OTAN, des États-Unis, quel rapport avoir avec la Russie, etc. Et donc, on ne peut pas construire une autonomie stratégique avec du matériel militaire s'il n'y a pas d'accord politique derrière sur ce que l'on cherche à atteindre et sur de qui est-on autonome ou pas. Donc ça, c'est un élément qui est quand même très important. Il n'y a pas de socle politique pour justifier ce développement sur le plan des capacités militaires. Et puis, un dernier élément qui est important, parce qu'on en parle aussi, je pense, beaucoup dans les médias quand on parle de l'Europe de la défense, c'est justement l'idée que ce programme serait une forme de renforcement de l'Europe. C'est comme une nouvelle étape. Donc, on a eu différentes étapes dans la construction européenne, le marché intérieur, etc. Alors, déjà, il faut rappeler qu'on avait déjà tenté dans les années 50 de créer une communauté européenne de défense qui avait déjà capoté à l'époque. Aujourd'hui, on a un peu ce même discours selon lequel ce serait un renforcement de l'Europe. Mais il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est qu'en fait, c'est un peu comme l'autonomie stratégique. On n'a pas une définition claire de ce que c'est l'Europe de la défense. D'ailleurs, ce terme Europe de la défense, il est très français, en fait. Il n'y a pas un équivalent exact en anglais. En anglais, on va vous parler d'une union de la défense, donc vraiment une union européenne de la défense. Donc vraiment, comme on a un marché commun, on aurait une défense commune. On peut parler de défense européenne, mais là, c'est plus l'agrégation des différentes défenses nationales au niveau européen. Donc, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on met tout ça ensemble? Mais ce n'est pas une défense commune. Et puis, on a en français l'Europe de la défense, qui est un concept encore plus flou. Et donc, il n'y a pas d'accord sur ces concepts. Chacun met ce qu'il veut derrière. Donc, tout le monde dit on est d'accord, mais en fait, on n'a pas du tout défini ce vers quoi on va. Ce qui permet d'éviter, évidemment, les désaccords. Mais en fait, on ne sait pas vers quoi on va. Il n'y a pas d'accord sur le modèle qu'on va avoir à la fin, entre des pays qui veulent préserver très fortement leurs prérogatives nationales sur ce sujet. Et donc souvent, je donne un exemple par rapport à la construction du marché commun. Pour nos auditeurs qui ne sont plus tout jeunes comme moi, ils vont peut-être se rappeler que dans les années 80, quand on a créé le marché unique, quand on parlait de créer le marché unique, il y avait beaucoup de préoccupations des syndicats ou d'organisations qui parlaient des risques de dumping social ou de dumping fiscal, puisque les États européens, les gouvernements n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur des standards communs au niveau des droits sociaux, des salaires, de la fiscalité, etc. Et donc, il y avait un grand risque finalement de se retrouver en compétition entre pays sur ces normes-là, une fois qu'on avait un marché unique. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. L'argument était de dire, du point de vue de la Commission européenne, en fait, comme on n'arrive pas à mettre d'accord les États membres au niveau politique, on va créer le marché unique et du coup, ça va les obliger, par le miracle de l'économie, à se mettre d'accord sur ces règles. Et en fait, ça n'est pas arrivé. Il y a eu quelques progrès, mais c'est très, très limité. On n'a pas une Europe sociale, on n'a pas une Europe fiscale. Ça n'existe pas. 30 ans après, si je compte bien. Et donc, le même problème se pose, c'est que comme on n'arrive pas à faire une Europe de la défense ou une Union européenne de la défense sur le plan politique, parce qu'il n'y a pas d'accord, on est en train de refaire la même chose, on repart par la base, on repasse par l'industrie en estimant que, à nouveau, par le miracle de l'économie, en donnant de l'argent à l'industrie de la défense en Europe, on va aboutir à une Europe de la défense sur le plan politique. Ce qui pour nous est un non-sens, c'est encore plus difficile, puisque évidemment la défense, le contrôle de son armée, et son industrie de l'armement, c'est un des derniers enjeux fondamentaux au niveau national. Aucun pays, la France en premier, ne va jamais renoncer, en tout cas dans une perspective à moyen terme, à son contrôle sur son armée, sur son industrie de la défense. Et donc, on est en train de subventionner une industrie sans aucun réel effet sur le plan politique.
Yes, et j'ajouterais que c'est vrai que c'est difficile d'en parler, puisque c'est des discussions où on mobilise beaucoup des experts, ou dit des experts, donc de l'industrie. Et par exemple, pour les chiffres sur le nombre d'emplois qu'il y a dans ces domaines, c'est très difficile de savoir exactement, de pouvoir calculer. On manque d'études et clairement de transparence sur le sujet, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Donc, on fait face à des justifications qu'on ne peut pas vérifier au niveau de la société civile, ce qui est quand même un problème dans tout ce discours politique. Et puis le fait que ce soit des justifications très politiques, alors que on n'en discute pas tant que ça dans le débat public. C'est aussi un problème. On peut voir avec l'élection présidentielle en France en ce moment que c'est juste pas un sujet. La défense même au niveau national, la défense européenne, on n'en discute pas. Et du coup, c'est aussi pour ça que nous on fait ce podcast pour essayer de d'avoir des informations sur ces sujets qui paraissent un peu difficiles d'accès. Et on va s'arrêter là pour la première partie de cet épisode sur les liens entre l'Union européenne, le secteur militaire, la sécurité et les ventes d'armes. Et on vous donne rendez-vous pour la seconde partie qui arrivera très bientôt et qui va nous permettre de plus approfondir encore ces liens entre le processus de militarisation et l'Union européenne, qui nous permettent un peu mieux de comprendre les enjeux autour de cette présidence française de l'Union européenne. Merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir écoutés. C'était Repensons la paix et la sécurité de Stop Feeling War. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à nous envoyer vos commentaires sur cet épisode ou sur les autres. Et si vous voulez nous rejoindre pour notre campagne contre le Salon de l'armement de Paris, Eurosatory, en juin 2022, ou si vous voulez retrouver toutes les ressources citées dans cet épisode, rendez-vous en barre d'infos. À bientôt !